Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Une rediffusion de l'émission du 15 juin 2014. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à un des personnages les plus célèbres de l'histoire russe, le tsar Ivan le Terrible, en particulier ses relations avec l'Église. Pour en parler, nous recevons Pierre Gonod, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et j'ajoute auteur d'un livre qui vient de sortir, intitulé « Ivan le Terrible ou le métier de tyran ». Ça vient de sortir donc chez Talendier. Pierre Gonod, commençons par citer Ivan dans le temps et la réalité de la Russie et de son Église au XVIe siècle.
Alors, Ivan le Terrible donc est le premier tsar russe. Il est né en 1530. Il est orphelin en 1533, donc il devient souverain, mais à l'époque il n'est encore que grand prince, selon la tradition des grands princes de Moscou. Et c'est lorsqu'il aura un peu plus de 16 ans, en janvier 1547, qu'il se fera couronner tsar. Et déjà, évidemment, ce couronnement impérial revendique la succession byzantine et a une dimension religieuse très forte, d'autant plus que c'est le chef de l'Église russe, le métropolite Macaire, qui a organisé totalement ce couronnement sur le modèle byzantin. À partir de là, et donc jusqu'en 1917, les souverains russes seront tsars et seront tous couronnés à Moscou selon le même rite. Et Ivan le Terrible meurt en 1584, donc après un long règne avec des péripéties assez frappantes.
Nous allons parler d'Ivan et de l'Église, de ses relations. Bon, il a laissé, je crois, un nom de quelqu'un de terrible, comme ce surnom le dit, hein, de quelqu'un d'extrêmement féroce et sanguinaire même, et en même temps une sorte de héros comme ça de l'histoire russe. Et c'est un peu difficile de le situer, si vous voulez, du bon côté ou pas, et de savoir quelles sont ses vraies relations avec l'Église comme institution.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il arrive à cet âge d'homme et où il va se faire couronner puis se marier, il incarne toute une série d'espoirs et d'espérances, et ces espérances ont une forte dimension religieuse, puisque c'est l'époque, dans les années 1520-1540, où la théorie Moscou Troisième Rome est élaborée et défendue par un moine, Philothée de Pskov, et il y a une série d'idées de ce genre qui courent. L'idée, donc, que deux Roms sont tombées, évidemment. La première, parce que le catholicisme est jugé par l'Église orthodoxe russe comme étant une sorte d'hérésie. La deuxième, Constantinople, qui a été prise par les Turcs, déjà presque un siècle. Et donc, le message est le suivant. Deux Roms sont tombées. La troisième, Moscou, tient, est debout. Mais, et là, c'est un avertissement fort, il n'y en aura pas de quatrième. Donc, c'est à la fois un message triomphal et un message inquiétant. Un message eschatologique, on se voit à la fin des temps. Et donc, l'avènement de ce nouveau tsar incarne des espoirs et très vite, tout de suite, il va incarner cette idée d'un évêque du dehors, de l'empereur évêque du dehors, et participer à ce grand concile de 1551 qui remet en ordre l'Église russe, celui qu'on appelle le concile des 100 chapitres, le Stoglave. Alors, on voit qu'à cette époque, il y a d'autres personnages importants, par exemple Maxime le Grec, un saint théologien qui avait eu quelques ennuis par le passé, qui est réhabilité à cette époque et qui est en Russie et qui déclare « Le tsar n'est rien d'autre que l'image vivante et visible, autrement dit incarnée, du roi céleste lui-même. Toutefois, ajoute-t-il, un philosophe a dit un jour à l'empereur « On t'a confié l'Empire, sois-en digne ». Et effectivement, pendant le Stoglave, Ivan, qui est plein de bonnes intentions à cette époque, hein, il a 21 ans, demande aux évêques d'honorer leur serment. Et si le tsar lui-même m'ordonne de faire quelque chose, dit le serment épiscopal, de faire quelque chose de contraire aux lois divines, je m'y opposerai, même s'il me menace de mort. Et donc, il y a une atmosphère d'expectative, d'attente, d'espoir et en même temps bon, d'inquiétude, on pourrait dire, dès le début. Ce qu'il faut souligner aussi d'important, c'est tout de suite après ce couronnement et ce grand concile, c'est la prise de Kazan. La prise de Kazan par les Russes, c'est l'inversion du rapport avec les Mongols. Jusqu'à présent, on était arrivé à se dégager difficilement du joug mongol, seulement en 1480, sous le grand-père d'Ivan III. Mais il y avait encore ces khanats tatars de Crimée, de Kazan, d'Astrakhan, etc. Et là, les Russes deviennent conquérants. Ils conquièrent Kazan et transforment une cité musulmane, avec ses mosquées, avec ses minarets, en une ville russe orthodoxe et en un archevêché orthodoxe, qui va devenir donc un peu la tête de pont du monde orthodoxe dans cette Asie que la Russie désormais acquiert une vocation à conquérir. Et pour célébrer cette victoire, on construit sur la place Rouge la grande église dite du bienheureux Basile, qui est évidemment l'un des monuments les plus fameux de Moscou. Donc là, vous voyez, la dimension religieuse est très vite évidente dans ces premières années, qui sont les bonnes années du règne d'Ivan le Terrible.
Alors, il y a un couronnement impérial, c'est un grand moment aussi. Pourquoi choisit-on de changer ? Vous avez dit un grand prince, et maintenant il y aura un tsar.
Alors, c'est une décision qui a été longtemps mûrie, on peut dire. Les Russes, contrairement aux Serbes, contrairement aux Bulgares, qui ont rapidement essayé d'instaurer un empire dans leurs propres états, et même un patriarcat, les Russes sont prudents. Ils ont été jusqu'au milieu du XVe siècle suffragants de Constantinople du point de vue religieux, et du point de vue politique, ils ont gardé leur tradition, c'est-à-dire un prince, enfin des princes et un grand prince qui a une prééminence sur les autres. Et là, ils se sentent prêts, en quelque sorte, sous l'impulsion de Macaire, vu aussi le fait que le grand-père et le père d'Ivan le Terrible ont rassemblé la plupart des principautés russes voisines de Moscou, à passer à une dimension nouvelle et à revendiquer donc l'empire, proprement dit, et à être donc le souverain orthodoxe par excellence. Il est vrai aussi qu'il n'y a plus d'autres souverains orthodoxes, par élimination, en quelque sorte. Le souverain russe incarne cette royauté suprême.
Alors évidemment, ça n'arrivera pas du temps d'Ivan, mais à la fin du siècle, il y aura quand même un patriarcat reconnu par Constantinople. Et donc, on va retrouver un peu cette bipolarité, oui, du pouvoir byzantin, si je puis dire.
Voilà, cette symphonie, comme on disait dans les termes byzantins, cette harmonie entre les deux pouvoirs. Donc les Russes font d'abord l'étape de la création de l'Empire en 1547, et Ivan le Terrible ne semble pas très décidé à avoir face à lui un patriarche. Il est très content d'avoir un métropolite. Et d'ailleurs, après la mort de Macaire, qui a été un peu son mentor et qui est mort assez âgé en 1563, les successeurs auront des fortunes diverses. Mais par contre, il est clair que face à un tsar, l'idéal voudrait qu'il y eût un patriarche. Et ce sera fait sous le règne du successeur d'Ivan le Terrible, de son fils Fiodor, à l'instigation de Boris Godounov, qui à l'époque est quand même déjà l'homme fort du régime. On profite de la venue du patriarche de Constantinople à Moscou et on fait pression assez fortement quand même pour obtenir la création d'un patriarcat russe. Et là, à ce moment-là, l'Église russe atteint une vocation nouvelle et devient le cinquième patriarcat orthodoxe. Mais ça ne durera pas très longtemps puisque Pierre le Grand, déjà en 1700, va être un peu gêné par la présence d'un patriarche. Et donc, la symphonie entre le tsar et le patriarche a duré finalement assez peu de temps, entre 1589 et 1700.
Et en fait, on va restaurer le patriarcat au XXe siècle quand, oui, il n'y a plus de tsar.
Voilà, juste après la chute du tsar. Donc c'est une destinée complexe pour ces deux institutions russes.
On revient à Ivan. Vous avez dit que la bonne période vient de se terminer. Alors on va passer à une période cruelle maintenant. Il faut dire peut-être quelques mots sur le projet politique, s'il y a un projet dans cette manière d'Ivan de vouloir se constituer un domaine qui lui est propre et d'administrer la Russie d'une manière nouvelle.
Oui, alors donc, Ivan le Terrible va garder le pays selon ses structures anciennes avec simplement un nouveau titre jusqu'en 1564, mais il est de plus en plus insatisfait. Il avait engagé des guerres qui ont été d'abord victorieuses, donc avec en particulier la conquête de Kazan, d'Astrakhan jusqu'en 1556. Après, il se lance dans une nouvelle aventure qui serait, et là c'est un but de guerre des Russes qui est resté longtemps le même, la conquête des Pays-Baltes. Sauf que là, cette guerre qui s'engage en 1558 va rapidement s'enliser et il y aura des revers, des défections. Et là, Ivan le Terrible considère qu'il est victime de trahison. Et donc, à ce moment-là, remontent ses souvenirs d'enfance, d'une enfance difficile, où il en avait beaucoup voulu aux boyards, qui, selon lui, avaient mis le pays en coupe réglée, qui n'avaient pas respecté la mémoire de son père, de sa mère, etc. Et donc, tout d'un coup, en janvier 1565, il se livre à ce théâtre politique tout à fait étonnant. Il fait semblant d'abdiquer, de se retirer, de dire « je renonce au pouvoir ». Alors, bien entendu, c'est impossible. On vient le supplier de reprendre les rênes du pouvoir. Et il dit à ce moment-là, je vais couper le pays en deux. Il y aura une petite partie que je me réserve et qui sera mon domaine avec ma propre garde, mes propres hommes et personne d'autre. Et donc, il va vider cette partie du pays. Et le reste sera administré en théorie par les boyards. Mais en fait, il les garde à l'œil et il obtient les pleins pouvoirs pour éradiquer toute trahison. Et donc là, les répressions vont se multiplier entre 1565 et 1572 pendant toute la durée de ce régime d'exception. Et on atteint des sommets de terreur à ce moment-là.
Alors, les sommets de terreur, bon, l'histoire, c'est l'histoire politique ici. C'est une période d'une grande férocité. On va peut-être dire, si vous voulez, un mot là-dessus, mais se concentrer sur ses relations avec l'Église. Mm-hmm. Parce que là aussi, et en particulier cet épisode avec le métropolite Philippe, illustré aussi par le cinéma, on connaît les films de Eisenstein ou de Lungin, hein, récemment, il y a quelques années, qui ont beaucoup insisté. C'est un coup de théâtre aussi merveilleux, mais en même temps, si vous voulez, ça en dit long sur ses relations avec l'Église, sa conception du pouvoir qu'il a en face de lui.
Voilà, c'est-à-dire que le métropolite Philippe est devenu le chef de l'Église russe un peu après l'instauration de l'Opritchnina. Il n'y avait pas participé. C'est un homme à la réputation de sainteté déjà assez grande. C'est un moine austère qui venait du nord, de Solovki. Et Ivan le Terrible essaie de conclure une sorte d'arrangement avec lui au départ, c'est-à-dire que Philippe aura tout à fait l'autorité sur l'Église, mais ne devrait pas se mêler des affaires politiques. Or, traditionnellement, et ça c'est une question très forte dans l'orthodoxie en général et dans l'orthodoxie russe, le chef de l'Église a le devoir d'intercéder en faveur des personnes en disgrâce et de tous ceux qui risquent d'être exécutés, de tous ces boyards qui, justement, sont là, la tête pratiquement sur le billot. Et c'est ce qu'il va faire, car c'est bien son devoir. Et évidemment, à ce moment-là, Ivan le Terrible regrette son choix. Donc Philippe avait été élu métropolite en juillet 1566. Et dès la fin de l'année 67, on sent que le conflit commence à se nouer. Et Ivan le Terrible, au début de l'année 68, fait faire une enquête, essaye de trouver des chefs d'accusation contre Philippe. Donc on voit qu'il a préparé déjà la déposition avant que le conflit lui-même atteigne sa phase critique, celle qu'on voit dans le film de Lungin et même chez aussi Eisenstein, ce moment en mars 1568 où Ivan le Terrible fait irruption à Moscou puisqu'il n'est même plus là en général, il arrive à l'improviste, il entre dans la cathédrale et il sollicite la bénédiction du métropolite comme il est d'usage pendant l'office. Et le métropolite refuse de lui donner sa bénédiction. Parce que justement, il a à plusieurs reprises essayé d'intervenir, d'obtenir la grâce des condamnés, on la lui a refusée. Et donc évidemment, c'est le pouvoir religieux, spirituel, qui se dresse face au temporel, au nom aussi de ce fameux serment épiscopal qu'Ivan avait évoqué en 1551, mais là, en quelque sorte, il est pris au mot. Alors c'est là qu'il dit, c'est donné dans le texte de la vie de Philippe, « Tais-toi, Philippe ». Et c'est la réplique qu'on a dans le film d'Eisenstein, « Malchi, Philippe ». Et Philippe ne se tait pas. Donc, l'accrochage a lieu en mars. En juillet, il se répète à l'occasion d'une autre cérémonie. Et finalement, donc, en novembre, on organise un procès assez expéditif avec la collaboration d'autres hommes d'église qui ont été un petit peu intimidés, bien entendu. Et Philippe est solennellement déposé. Alors, s'est fait en sorte pour l'humilier, pour le reléguer à un rang vraiment subalterne. Et on l'exile en province. Mais il n'a pas plié. Et au moment où Ivan le Terrible, un an plus tard, lance à la fin de l'année 69 une grande expédition qui va être un des sommets de sa politique de terreur, l'expédition contre Novgorod, il se met en route et en route, il passe par Tver où se trouve Philippe en prison. Et il envoie une de ses âmes damnées, Maliut Askouratov, pour dire à Philippe « Nous t'offrons d'être restaurés sur ton trône si tu cautionnes cette expédition dont on sait qu'elle va être sanglante ». Philippe refuse et donc il est étranglé dans sa cellule par ce Maliut Askouratov le 23 décembre 69. Et désormais, c'est un saint. C'est un saint homme. Et même Ivan le Terrible, au fond, est quand même impressionné par cette force d'âme. Et de toute façon, dès le règne de son successeur, Fiodor, les restes de Philippe seront ramenés d'abord à Solovki, son monastère d'origine, et l'objet d'une vénération. Et plus tard, au 17e, ramené solennellement à Moscou. Donc Philippe incarne la seule forme de résistance possible face à un tsar de ce type, c'est dénoncer l'abus et en subir les conséquences. Ce n'est pas la résistance physique ou la résistance armée, c'est la résistance par la dignité. Et là, on voit bien ce face-à-face entre le spirituel et le temporel.
Alors, deux points encore importants, évidemment, c'est le sac de Novgorod, et aussi quelque chose qui étonne pour un empereur chrétien orthodoxe, c'est le nombre de mariages.
Oui. Alors, effectivement, ça fait partie des faiblesses bien connues d'Ivan le Terrible, où il a battu là le record d'Henri VIII, qui a eu 6 mariages, tandis qu'Ivan en a eu 7. Et effectivement, à partir du 3e, déjà le 2e, bon, c'est toléré assez facilement. Le 3e, c'est un peu plus difficile. Mais à partir du 3e, normalement, l'Église orthodoxe n'accepte pas simplement qu'on se marie davantage.
On se souvient de l'affaire de Tetragami de l'empereur Léon à Byzance, hein, et qui avait créé une très grande agitation, justement. Et on sait que jusqu'au 3e mariage, on peut aller, mais pas plus loin.
Voilà. Et donc, Ivan le sait aussi, et l'Église russe le sait. Alors, il va ruser pour le 3e, 4e et même le 5e. Il se trouve que sa 3e épouse, elle est morte très peu de temps après le mariage. Alors, on a soupçonné qu'elle était envoûtée. Enfin, il y a toutes sortes de rumeurs. Et donc, il fait annuler en disant le mariage n'a pas été consommé. Donc, ça ne compte pas. Et après, eh bien, à chaque fois, il va essayer entre deux métropolites, à l'occasion d'un moment où il n'y a pas de chef de l'Église, d'obtenir ces mariages. Mais effectivement, ils ont une validité très contestable. Et c'est important aussi pour le dernier, le mariage avec Maria Nagaya, dont il aura le fameux tsarevitch Dimitri, le dernier de ses héritiers, qui est né en 1582, peu de temps avant la mort de son père, et qui est le fils d'un 7e mariage. Donc c'est quand même un héritier un petit peu douteux, et qui malgré tout sera ce fameux tsarevitch qui se réincarnera à plusieurs reprises dans la période dite du temps des troubles.
Et Novgorod.
Alors Novgorod, c'est une expédition qui n'a pas de sens véritable à l'époque où elle est faite. C'est-à-dire que Novgorod ne se révolte pas contre Ivan le Terrible. Elle a été soumise par son grand-père il y a déjà presque un siècle, en 1478. Et là, en janvier 1570, il investit la ville comme si elle était un territoire ennemi. Il soumet au pillage les monastères, il pressure les plus riches. Et il fait déchoir de son trône l'archevêque, qu'il envoie lui aussi en prison avec une mise en scène aussi tout à fait humiliante, puisque, semble-t-il, on l'a fait monter sur une mule, on lui a mis une cornemuse dans les mains en lui disant « tu n'es plus un archevêque, tu es un bouffon, un baladin, donc joue de la cornemuse ». Et effectivement, il y a ce mélange à la fois d'extrême religion, parce qu'Ivan le Terrible est un homme extrêmement religieux, qui prie sans arrêt, qui se lève la nuit pour assister à des offices, et en même temps de cruauté et d'aspect bouffon qu'il cultive et qu'il communique au peuple, c'est-à-dire qu'il est toujours très important de rabaisser ses adversaires, y compris ses ecclésiastiques qui ont pu s'opposer à lui. Et en ce sens-là, évidemment, il y a un débordement du pouvoir absolu du tsar qui est sans précédent et qui pose ce problème. Mais la résistance, disons, de Philippe est la chose qui l'a le plus gêné, certainement.
Et les dernières années du règne, est-ce qu'il y a eu vraiment un apaisement ou tout s'est terminé dans la cruauté?
Alors les dernières années, il y a effectivement un tournant. Après la mort de son fils, qu'il a quand même tué accidentellement, mais quand même dans un accès de colère, en novembre 1581. Dans les deux dernières années, Ivan le Terrible va tenter de se réconcilier avec ses victimes. Et ça, c'est un geste profondément religieux qu'il fait. Il fait rédiger une liste de ses victimes, qui s'est conservé, alors qui est un document assez effrayant, où on a plus de 700 personnes de la noblesse, 2000 gens du commun, hommes, femmes, enfants. Et très souvent, la liste, c'est en gros par époque, par moment de ces périodes de terreur, et on dit, et environ tant de personnes, Dieu connaît leur nom. Parce qu'on ne sait plus qui on a tué, mais on a quand même, on voit que ça a été dressé à partir de mémorandums, disons, de l'époque. Et il demande donc qu'on prie pour leur âme et il envoie ses listes dans les principaux monastères. Alors les monastères, eux, ont finalement assez peu souffert du règne. Ils ont bénéficié de larges aumônes dans les périodes fastes. Et dans cette période de repentir, ils vont bénéficier là aussi de donations. Et ils sont restés les réceptacles aussi par excellence de l'orthodoxie pendant tout le règne. Comme d'autre part, beaucoup de familles ont été décimées, leurs héritiers parfois font des dons aussi. Donc au fond, on a ce contraste entre un tsar par moment à la limite du sacrilège et en même temps d'une piété extraordinaire et qui finit par reconnaître ses torts d'une certaine façon et faire prier. Alors en priant pour ses morts, il les réhabilite.
On a un mot pour terminer, vu de loin. C'est un règne qui fait basculer les relations entre le pouvoir politique et l'Église. Est-ce qu'il y a un changement ?
C'est un règne qui, effectivement, consacre un peu ce rapprochement très très fort entre l'État et l'Église. C'est l'Église orthodoxe russe qui coïncide avec les frontières de l'État russe. Elle va s'élever au rang de patriarcat très peu de temps après la mort d'Ivan le Terrible. Et en même temps, évidemment, il consacre aussi ses relations un petit peu malsaines dans le sens où le souverain a toujours le pas sur l'Église et qu'il peut par moment s'arroger des privilèges extraordinaires. D'une certaine façon, Pierre le Grand prendra un peu la relève d'Ivan le Terrible quand il mettra la main sur l'Église et ses richesses et supprimera le patriarcat. Donc il y a à la fois le meilleur et le pire, on pourrait dire, mais c'est une époque, un tournant très important.
Ivan le Terrible donc, comme vous dites, un tournant très important. Un mot sur ce livre, vous avez écrit un livre général sur Ivan, évidemment, dont sont extraits toutes les informations que vous donnez. Il faut dire que c'est un livre qui se lit très facilement, très agréablement. On lit ça presque comme un roman et en même temps c'est un livre d'histoire parfaitement scientifique, si vous voulez. Et on voit cet homme cruel qui dirige la Russie d'une main vraiment de fer et qui en même temps, comme vous avez dit, a des penchants religieux très personnels. Est-ce que les sources sur Ivan sont maintenant suffisamment travaillées pour dire qu'on a fait le point sur lui?
Alors, on a beaucoup travaillé sur ses propres œuvres, puisqu'il avait écrit un certain nombre d'œuvres, et donc là, on est presque arrivé au bout, mais en même temps, c'est le moment, disons, de redécouvrir un peu l'ensemble et de faire l'équilibre entre ses œuvres russes, ses sources russes et les sources étrangères, et c'est ça qui est aussi passionnant, parce que la Russie entre aussi de plein pied dans l'Europe à ce moment-là, donc on a les deux qu'on peut confronter.
Merci beaucoup Pierre Gonod. Donc je rappelle votre livre « Ivan le Terrible ou le métier de tyran » chez Talendier. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation Sylvie Mégot. Prise de son Pierrick Monsigny. Notre adresse Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.